Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Quoi de neuf en histoire. Nous sommes le jeudi 23 janvier et vous êtes sur Aligre FM 93.1. Je suis Rassane Moubarak et l'émission d'aujourd'hui est consacrée à la bande dessinée historique. En France, près d'un livre sur cinq est une bande dessinée ou un manga. Ça fait environ 75 millions de ventes chaque année. C'est donc une forme de littérature qui a sa popularité. Et si vous nous suivez, vous savez que nous avons l'habitude d'en parler à l'antenne et à l'occasion de rencontres enregistrées en public. Les sujets historiques ont ceci de particulier qu'ils peuvent être une porte d'entrée dans le 9e art pour les amateurs d'histoire et également pour les auteurs et dessinateurs de bandes dessinées de toucher un nouveau public comparativement aux essais historiques classiques. Donc pour toutes ces raisons, nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui une rétrospective de la production en 2024 en bande dessinée historique. Et pour ça, je suis accompagné en plateau d'un premier invité, Thierry Lemaire. Bonjour Thierry.
Bonjour Hassan.
Vous êtes journaliste, spécialiste en bande dessinée, rédacteur en chef du site Case d'Histoire qui est consacré à la bande dessinée historique. Et nous aurons aussi la joie d'avoir en direct au téléphone Jean-David Morvan. Bonjour Jean-David.
Bonjour.
Donc vous êtes avec nous, vous êtes de Reims. Je vous présente, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas bien, vous êtes le scénariste de multiples séries de bande dessinée et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, scénariste de Madeleine Résistante, un triptyque paru aux éditions Dupuis qui est dessiné par Dominique Bertaille et qui d'ailleurs a obtenu le prix René Goscinny du scénario au Festival d'Angoulême en 2022. Je vous reprends dans quelques minutes, Jean-David. Je voudrais juste que Thierry Lemaire, vous nous présentiez un peu Case d'Histoire, qui est un peu le partenaire de l'émission aujourd'hui.
Oui, alors Case d'Histoire, c'est un site internet, casedhistoire.com, qui a été créé il y a 10 ans. Déjà, et qui traite essentiellement de la bande dessinée historique. Avec mon collègue Stéphane Dubreuil, on a tous les deux une formation d'historien, et on s'était dit il y a 10 ans, il n'y a aucun média qui traite spécifiquement de la bande dessinée historique, alors que c'est un genre qui est peut-être le genre le plus publié en bande dessinée. Il y a 10 ans, on avait regardé comme ça à la louche, et on avait trouvé qu'il y avait peut-être 500 sorties, plus ou moins, hein, ça peut être des fictions, ça peut être... mais avec un arrière-plan historique, il y avait à peu près 500 sorties. Donc c'était un genre très important, et il n'y avait aucun média qui traitait sous l'angle historique. Alors voilà, on a décidé de monter ça tous les deux, et depuis 10 ans, et ben voilà, on fait des chroniques avec des rédacteurs qui sont bien souvent professeurs d'histoire géo, universitaires, doctorants en histoire, qui ont un rapport vraiment avec l'histoire, un rapport, et qui sont passionnés de bande dessinée évidemment. Donc ça donne une valeur ajoutée à nos chroniques qui sont orientées sur le contenu historique de la bande dessinée, et donc qui recontextualise par rapport à ce qu'il y a dans la bande dessinée, qui peut souligner les choses qui sont très justes, ou alors les erreurs grossières, ou qui peut souligner un angle qui a été un angle particulier qui a été pris par les auteurs, les autrices. Donc voilà, on a cette spécificité là, et on est les seuls à avoir cet angle là.
Oui, moi j'aime beaucoup vos chroniques parce que les recensions sont longues et effectivement elles mettent en rapport à la fois le côté historique et puis aussi le côté romanesque de l'histoire. Et d'ailleurs, vous avez eu l'occasion de chroniquer les 3 tomes de Madeleine Résistante.
Ah bah tout à fait, là Jean-David nous entend. Tous les ans, depuis 10 ans, on décerne le prix Case d'Histoire qui, pour la rédaction de Case d'Histoire, est la meilleure bande dessinée historique. Et Madeleine Résistante, les 3 tomes ont été dans les finalistes, toujours placés, jamais gagnants, désolé Jean-David, mais bon, toujours dans les finalistes des meilleurs BD historiques de l'année, là, sans aucun doute.
Jean-David, passons à Madeleine Résistante, qui est un triptyque que vous avez signé donc avec Dominique Bertaille, un 3e tome qui est sorti l'an dernier. C'est consacré à la Seconde Guerre mondiale de Madeleine Riffaut, qui va entrer dans la résistance à l'âge de 16 ans en 1940, et puis vous allez raconter son évolution pendant ce conflit. Madeleine Riffaut nous a quittés le 6 novembre dernier, juste après avoir atteint l'âge de 100 ans. Et je tiens à signaler que vous lui avez rendu vraiment un très bel hommage à travers les réseaux sociaux à cette occasion. Alors, je ne sais pas quel était le début de vos échanges, mais moi, je ne la connais pas, mais j'ai naturellement envie de l'appeler par son prénom.
Oui, moi, je l'appelais par son prénom. En fait, ce n'est pas son vrai prénom, parce qu'elle s'appelait Marie-Madeleine.
Mais elle n'a jamais voulu qu'on l'appelle Marie-Madeleine, donc tout le monde l'appelait Madeleine. C'est pas un triptyque, déjà, pour commencer. C'est une série, donc oui. Ça va continuer. De toute façon, on va continuer tant qu'on n'aura pas le prix Case d'Histoire, donc voilà, ça peut durer longtemps. Et oui, ça continue après, parce que le tome 4, il y a encore une... Ce sera sur la fin de la libération de Paris. Après, le tome 5, on passe dans sa vie de grand reporter de guerre, ouais. Qui est aussi historique, très intéressant sur les guerres coloniales de la fin du XXe siècle. Donc, voilà, c'est l'histoire de sa vie. C'est une grande histoire dans l'histoire, la vie de Madeleine. Donc, c'est assez passionnant et ça prend beaucoup de choses du roman national à revers. Donc, ça va être très, très intéressant à traiter. Ouais.
Bah, on peut revenir justement sur la genèse de ce projet, déjà du point de vue de Madeleine, parce qu'il faut savoir qu'elle n'a commencé à évoquer ses souvenirs dans la Résistance que très tard, en 1994. À l'époque, elle avait 70 ans. Quel était l'élément déclencheur de cette transmission de son histoire ?
En fait, je dirais que c'est vrai et pas vrai, parce que quand elle était juste après la guerre, elle a été assez connue pour être la petite fille qui a tué un soldat allemand. Donc elle a raconté son histoire à ce moment-là. Et effectivement, après, ça a disparu... Dès la fin des années 40, elle en parlait déjà plus, elle était passée à autre chose. En 94, c'est Aubrac, c'est Raymond Aubrac qui est venu la voir et qui lui a dit, enfin en 93 exactement, et qui lui a dit qu'il fallait justement pour 1994, qui marquerait les 50 ans de la libération de Paris, qu'elle commence à parler parce que Madeleine, elle savait parler, ce qui n'était pas le cas de tous les résistants qui avaient fait ce boulot-là. Beaucoup disaient à Madeleine, mais toi, t'es une journaliste, t'as les mots, tu peux parler pour nous, donc n'hésite pas. Donc elle a commencé à parler pour eux à ce moment-là, puisque Aubrac l'a engueulée en lui disant, comme elle refusait et comme elle avait quand même un sacré caractère, elle a dit non, moi je veux plus parler de ça. Il lui a dit, ça veut dire que tous tes copains vont disparaître dans la mémoire collective, on ne saura plus ce qui s'est passé. Elle a dit évidemment, à ce compte-là, je suis bien obligé d'accepter. Et elle a commencé à aller dans les écoles, mais aussi à parler dans des colloques et tout ça. Et c'est là où la mémoire de cette période lui est revenue, parce que comme elle avait été torturée par la Gestapo, elle a fait un choc post-traumatique assez violent qui a commencé, je dirais, le 27 août 1944, donc au lendemain, au surlendemain de la libération de Paris. Et donc, c'est vrai qu'elle elle avait refoulé tout ça. Et elle dit, ma mémoire est revenue grâce aux élèves, surtout qui me posaient des questions d'une manière très, très naïve, et ce qui est quand même le plus important, parce que ça m'a permis de faire revenir ma mémoire. Donc voilà, c'était Madeleine, elle avait pris le parti après... la guerre de parler de la vie des autres, elle est devenue grand reporter de guerre grâce à Éluard qui l'a envoyé chez Aragon au journal Ce Soir, et puis après elle a enchaîné. Et elle racontait la vie des autres. Et la sienne, ça ne l'intéressait pas tellement. Donc il a fallu du temps pour que ça revienne.
Et vous, dans quelles circonstances vous avez eu envie de la rencontrer d'abord et puis de retranscrire son histoire ? Vous l'avez entendu témoigner justement dans les écoles, dans ses écrits. Comment vous en êtes arrivé à vous dire avec Dominique Bertaille, il faut qu'on raconte ça et sous forme de bande dessinée ?
Moi, Madeleine, je l'ai rencontrée entre guillemets à la télé. Je l'ai vue en le 8 mai 2017, dans un documentaire qui s'appelle Résistante, dans lequel il y a Marie-Jo Chambard-Delaube, Cécile Rotangui et Madeleine. Et j'ai été assez marqué par Madeleine, donc j'ai demandé à un copain journaliste de me trouver son numéro de téléphone, parce que je savais pas comment faire. Et puis au bout de 15 jours, je l'ai appelé, et là, elle m'a quand même bien envoyé chier en me disant, la bande dessinée, n'importe quoi, on m'aura mise à toutes les sauces. D'abord, comment vous avez eu mon numéro? Donc j'ai dit, j'ai demandé à un copain journaliste, elle m'a répondu, vous êtes bien bête, je suis dans l'annuaire. Donc, rappelez-moi la semaine prochaine, là, je suis occupé, donc je l'ai rappelé, et puis finalement, Georges Amat, ou Rolfrey Armat, qui est un réalisateur qui a fait des films sur elle, lui a dit, mais Madeleine, tout a changé, la BD c'est plus du tout comme quand tu la lisais quand t'étais gamine, et quand elle était gamine c'était 85 ans avant, donc évidemment la BD a changé pendant cette période, et dit c'est un bon moyen de toucher plein de gens et de continuer la mission que Aubrac t'a donnée de transmettre la mémoire de la résistance, et que tu peux plus faire maintenant parce que tu sors plus tellement de chez toi, t'es devenu aveugle, c'est compliqué, tu peux plus aller dans les écoles, donc passe par la bande dessinée. Et donc, elle a compris ça, elle a accepté, je suis allé la voir, et puis ça a duré sept ans où j'habitais chez elle quand j'étais à Paris, puisque, comme on a dit, j'habite à Reims, et donc, je vivais avec elle, on a beaucoup travaillé, fait plein de choses d'autres que travailler, mais tout ramené à cette bande dessinée. Elle est donc devenue autrice de bande dessinée à 97 ans, ce qui me semble être un record.
Oui, sans doute, jusqu'à 99 ans finalement. Et vous voyez souvent, enfin, comment s'est passé le processus d'écriture? C'est, elle vous racontait un épisode comme ça toutes les semaines, tous les mois? Ou est-ce que vous avez des séances un peu spéciales de je prends des notes, j'allume le dictaphone et puis j'écoute ce qu'elle me dit?
Quand je suis allé la voir la première fois, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Si elle allait me dire, bah, prenez ce livre et vous n'avez qu'à l'adapter. Ou... Mais elle ne savait pas tellement non plus, je pense. Donc, en fait, on s'est rencontrés, ça s'est bien passé. Je pense qu'on a bien cliqué, quoi. On s'est bien entendu tout de suite. On a commencé une sorte de commando qu'on a continué en faisant arriver Héloïse, ma compagne, Dominique Bertheil et d'autres gens comme Mathieu Poulalec, notre attaché de presse après, ils ont tiré depuis. Donc, on s'est tellement bien entendu qu'elle a eu envie de raconter. Madeleine, c'était une grande écrivain. De grande journaliste, grande écrivain, donc elle a beaucoup écrit, elle a fait des poésies, donc c'est vraiment quelqu'un de très lettré qui était devenu aveugle et qui pouvait plus écrire. Et donc à la place d'écrire, bah, en fait elle parlait, c'est-à-dire qu'elle racontait ce qu'elle aurait pu écrire et elle s'ennuyait finalement chez elle. Donc elle m'a dit un jour, t'as bien fait de venir m'emmerder pour la BD parce que je commençais à me faire sérieusement chier dans la vie. Donc en fait ça lui a donné une nouvelle... impulsion. Et donc j'allais la voir le plus souvent possible. Habitant à Reims, c'était pas tellement évident parce qu'il y a un train qui le dernier train part entre 20h30 et 21h, ça dépend des jours. C'est pour et ça donc, qu'on au bout d'un moment, elle m'a dit, mais tu sais, j'ai un autre appart au-dessus du mien, parce qu'elle habite dans le Marais, mais avec un appart au troisième et un ancien au quatrième qu'elle habitait plus. Et si tu veux, bah, tu peux dormir là, comme ça, tu restes le soir. À l'époque, on travaillait, elle me racontait des choses jusqu'à 3h du matin, puisqu'elle se levait tard, donc après ça a changé au fur et à mesure, mais de son état de santé. Mais voilà, et donc j'ai dit oui, bien sûr, je vais dormir chez toi. Et puis après, c'était devenu impossible pour moi de rester plus d'une, juste une journée. Elle me disait, bah, tu vas quand même pas venir qu'une journée, tu peux dormir là-bas, t'es chez toi, voilà. Et donc, en gros, elle m'avait eu, hein. Et donc, mais j'étais content. Et donc, en gros, je restais chez elle pendant très longtemps, deux jours et demi par semaine. Pour discuter, écouter des choses, des histoires qu'elle répétait, que je réécoutais, je lui reposais des questions, j'enregistrais, mais finalement tout s'enregistrait dans ma tête, mais j'ai des centaines d'heures d'enregistrement, et finalement on a passé 7 ans à ça, quoi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui elle n'est plus là, mais j'ai du matériel pour raconter toute sa vie après, puisqu'on a beaucoup travaillé sur le fond de son histoire.
Oui, on va parler de la suite de ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Mais donc, évidemment, elle est créditée dans les auteurs, hein, sur la couverture des livres.
Ah, mais elle est autrice voilà. À part entière.
Voilà. Mais du coup, est-ce qu'elle relisait les planches? Est-ce qu'elle faisait des commentaires? Est-ce qu'elle demandait des changements? Ou est-ce qu'il y a des choses qu'elle ne voulait pas que soient mentionnées?
Ah, mais oui, parce que Madeleine était particulièrement, on peut dire, soit pointilleuse, soit casse-couille. On peut choisir un peu ce qu'on veut comme terme. Mais c'est dit, évidemment, avec toute l'admiration et l'amour que j'ai pour elle. Je pense que le tome 2, qui était quand même le plus difficile, alors le premier c'était différent parce qu'elle découvrait la bande dessinée, mais le tome 2, où elle était déjà bien dans les baskets d'une autrice de bande dessinée, je lui ai relu parce que je devais lui relire vu qu'elle était aveugle. Donc je lui lisais tout, les cases, je lui racontais ce qui se passait dans les cases, dans chaque case, je lui lisais les dialogues et tout, et donc on a dû le relire 17 fois, je pense. Donc à chaque fois, elle me faisait échanger des choses où on se disait, ah bah là, tiens, c'est peut-être pas assez clair. Donc on recommençait, voilà. Donc oui, elle a vraiment beaucoup travaillé. Il n'y a pas en amont, on décidait dans quel ordre on mettait les scènes, quelles scènes on mettait, quelles scènes on enlevait. Elle a vraiment fait un vrai travail. C'était vraiment au boulot. Mais Madeleine, ce qu'elle voulait, c'était travailler. C'était ça qui la tenait en vie toujours. Donc elle est vraiment co-scénariste, ou plutôt c'est moi son co-scénariste. Je dirais que avec Dominique, on a fait son autobiographie d'une certaine manière. On était les outils de sa mémoire. Puisqu'elle pouvait pas dessiner et pas écrire non plus, plus écrire non plus. Donc en fait, on a fait, je pense, d'une certaine manière, son autobiographie et elle validait tout. Voilà, quand elle trouvait qu'un dialogue était trop long, trop pas assez pointu, pas assez précis, bah on le corrigeait avec elle et elle avait plein d'idées. J'ai une anecdote incroyable où en fait c'était la dernière fois que j'ai relu le tome 2 avec elle. On devait l'envoyer à l'impression genre le lendemain. Et on était déjà en retard, et elle dit, je veux qu'on le relise quand même, donc on l'a relu. Je lui ai lu tout l'album, et on a dû finir à 1h du mat, et je vais me coucher, donc au-dessus. Et puis le lendemain matin, j'arrive à midi, elle me dit, bon, j'ai réfléchi, j'ai fait tourner dans ma tête ce que tu m'as raconté, il y a deux choses qu'il faut qu'on change. Donc particulièrement une scène avec son amoureux, elle dit, on a l'impression qu'il vient juste pour baiser, ça va pas, faut rajouter du dialogue d'amour pour qu'on comprenne bien, et tout ça. Et donc ça veut dire que comme elle n'avait pas les pages sous les yeux, en fait, elle a gardé en tête tout ce que je lui ai dit, elle a réfléchi, elle a repassé tout en revue en se disant, bah, y a deux choses à changer. Et le lendemain, en fait, elle s'en souvenait, on les a changées et on les a envoyées à Dupuis. Heureusement qu'ils sont super avec nous et que ils savaient bien que Madeleine, jusqu'au bout du bout du bout, on pouvait changer des choses et on a changé les dialogues au dernier moment avant de lancer le bouquin à l'impression. Donc, c'était vraiment un cerveau comme j'en ai rarement vu. J'en verrai peut-être pas beaucoup d'autres comme ça, vraiment avec une capacité de concentration et de mémoire qui est impossible normalement.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Oui, alors moi, je voulais ajouter quelque chose. C'est très intéressant ce que vient nous dire Jean-David, parce que dans la bande dessinée historique, il y a beaucoup de biographies. C'est un sous-genre de la bande dessinée historique qui est assez... Il y a beaucoup de publications de biographies. Alors, il y a beaucoup d'auteurs qui utilisent des livres qui ont été faits. Alors, si c'est des autobiographies, c'est encore mieux, mais... souvent, c'est des biographies sur un personnage. Et là, avec Madeleine Riffaut, on a le personnage qui peut tout dire, qui peut donner toutes les... Et on a la même chose avec Ginette Colinca, pour la même période, et qui est... Voilà, qui aussi peut témoigner vraiment... Donc ça, c'est vraiment extraordinaire d'avoir ça dans une bande dessinée historique.
Je vais dire...
Non, puis en fait, ça nous a poussé aussi avec Dominique à faire quelque chose qui est de l'ordre du genre. C'est-à-dire, c'est pas une biographie Wikipédia ou mode d'emploi. Voilà, on a décidé avec Madeleine de raconter son histoire avec de l'émotion, avec plein de choses, et peut-être ce qui différencie, pas de toutes les BD biographiques, mais de certaines ou d'un certain nombre où en fait, bah, on reprend du texte, on met une image, et puis on met du texte, et à chaque fois, on accole à ce texte une image, et finalement, c'est le texte qui a plus d'importance, et l'image qui est là en support du texte. Alors que nous, on fait une bande dessinée, on essaye de faire une bande dessinée globale, quoi. Donc, où l'image, la force de l'émotion, la narration a autant d'importance que le texte. Et peut-être c'est ça qui différencie Madeleine. Je sais pas, j'y réfléchis souvent parce que je me demande pourquoi cette BD marche si bien et je sais pas tellement tout définir et je me dis c'est peut-être une des raisons, en tout cas.
Oui, alors, Jean-David, bouge-toi les oreilles, mais bon. En feuilletant l'album, bah, on voit tout de suite le talent de Dominique Bertaille,
le dessin,
les couleurs. Enfin bon, voilà, on est plongé déjà dedans. Mais effectivement, quand on lit, on voit le talent de Jean-David Morvan aussi, parce que c'est la construction du récit, tout ce que tu viens de dire là, la construction du récit, effectivement, ça se lit, mais comme un feuilleton qu'on regarderait comme ça, ça coule et c'est pas heurté, il y a pas de choses qui sont imposées au lecteur, c'est vrai, moi je trouve que le talent des trois fait que
avec Héloïse en plus, mais oui c'est gentil d'abord. Mais c'est vrai que quand je relis à Madeleine, ce qui m'arrive pas toujours quand même, parce que je le connais un peu, mais je suis quand même toujours étonné du nombre d'informations qu'on réussit à faire passer sans avoir jamais donné l'impression au lecteur, quand il referme l'album, qu'il a ingéré des informations.
C'est vrai, parce que parfois les informations sont données comme ça dans des notes de pas de page, ce qui n'est pas le cas là, hein. C'est vraiment au fil de l'histoire. Ouais. Je voulais dire un petit mot sur le découpage des albums, Jean-David. Le premier tome...
C'est joli, Jean-Dominique.
Oui, voilà. Mais voilà, mais en fait, vous êtes tellement associés, vous voyez, qu'on ne sait plus qui est le scénariste, qui est le dessinateur.
Le duo.
Voilà. Donc, le premier tome, c'est l'entrée de Madeleine dans la résistance, son engagement à l'âge de 16 ans. Le deuxième...
Ouais, mais exactement comment on devient un résistant.
Voilà.
Ans, elle a 18 ans en vérité, mais bon, c'est un peu, j'ai dit à Dupuis d'arrêter de dire qu'elle a commencé à 16 ans, mais ça, c'est un truc du début qui continue tout le temps.
C'est vrai. Le deuxième tome, sorti en 2023, il raconte l'entrée vraiment dans la lutte armée à partir de 1942, jusqu'à son arrestation par la Gestapo en 1944 après le meurtre d'un officier allemand. Et donc, on a aussi, à ce moment-là, des détails sur la résistance parisienne durant l'occupation. Et le troisième tome, c'est celui qui a peut-être le plus d'émotion, évidemment, puisque ça aborde la détention de Madeleine dans les locaux des brigades spéciales, la torture qu'elle a endurée, et puis c'est vraiment sur des pages et des pages. Hein, donc, vous n'éludez pas...
Et de la Gestapo après, oui.
Voilà, bien sûr. Donc, on voit très bien la brutalité des faits. Donc, cet album, il a une intensité dramatique majeure. Est-ce que ça a été celui qui a été le plus difficile à accoucher? Est-ce que Madeleine s'est confiée sur ses périodes les plus sombres de la même manière que sur son entrée et ses premières actions dans la résistance où on a à ce moment-là le goût du danger, mais finalement, jusqu'à l'arrestation, on a l'impression qu'on va pouvoir y échapper, quoi.
En fait, le truc, c'est que comme c'est une série un peu particulière, nous, on savait déjà tout, en fait, dès le départ. Donc, on savait déjà qu'on arriverait à cet album. Donc, en fait, les deux premiers sont aussi faits pour préparer cet album, d'une certaine manière. On savait qu'on le ferait, on savait que ce serait dur. Quand Madeleine allait rentrer vraiment dans les détails, c'était dur. Elle est tombée malade, moi aussi. Après, Dominique aussi. Dominique, il faisait des cauchemars en le dessinant. Sa femme lui disait, t'as encore fait des cauchemars cette nuit. Donc, c'était assez rude, mais on savait très exactement qu'on allait le faire quand on a commencé le tome 1, déjà. Et donc, on a eu le temps de s'y préparer. Comme elle, c'était préparé à la torture, mais pour nous, c'était quand même moins douloureux. Et donc, voilà, c'est un album qui ne fonctionne, je pense, vraiment bien que si on a lu les deux précédents. Parce qu'on a l'impression que l'album, il est différent des autres, et il l'est, sans doute. Mais en fait, il est touchant parce que les deux précédents existent et qu'on s'est déjà attaché à Madeleine. Et que donc, ce qui lui arrive, on le prend directement, quoi. Et c'est ça la force aujourd'hui qu'on peut faire. Enfin, c'est la force de toujours d'une série. C'est-à-dire, par rapport à un one-shot, la force de la série, c'est aussi de pouvoir préparer le lecteur à des événements qui arrivent. Et donc, c'est intéressant de jouer aussi avec ce médium de la série. Mais on savait bien que ça allait être un album difficile à faire. Le prochain, c'est de la bagarre, c'est la libération de Paris. Ils vont courir sur les toits, c'est autre chose. Mais celui-là, oui, c'est un point central. Et je pense que c'est un album... Je pense qu'on n'a jamais lu ça en bande dessinée, donc c'est ce que je me suis dit quand je l'ai relu à la fin, avant de l'envoyer en édition. Je lis quand même beaucoup de bandes dessinées, je me dis ça, honnêtement, je crois qu'on ne l'a jamais lu. Donc on était assez contents de l'avoir fait avec Madeleine. Après, elle n'avait pas envie de raconter au début la maison des morts, et puis ce qu'elle appelle la maison des morts, c'est-à-dire la Gestapo.
Oui.
Et puis on a quand même insisté, et un jour... on lui a demandé de mettre des scènes intercalaires avec ses copains, donc des scènes qu'elle n'avait pas vécues et qui étaient dans sa mémoire, qu'on a inventées pour détacher un peu le lecteur de la prison, le sortir un peu et donner un peu d'air à tout ça. Et elle a dit « Ah ben voilà, hein, vous les avez voulu, les tortures, je vous les ai données, maintenant il faut que vous vous débrouillez avec. Hein. » Donc elle savait aussi à quel point c'était fort, donc elle a accepté qu'on mette ces scènes-là, qui font pas partie de sa vie finalement. Mais nous, on en avait besoin pour pas plomber totalement le lecteur. Après, ce qui est bien, c'est que la fin de l'album est plus aérée, elle se passe, est plus jolie. Je pense que la fin est assez émouvante, donc on avait besoin de beaucoup de pages pour sortir de ça. Effectivement, sortir des geôles de la Gestapo, c'était important.
Alors, il y a autre chose qui aère le récit et l'album, c'est les poèmes. Parce que Madeleine a écrit des poèmes dès cette période, pendant sa détention, et des poèmes qui ont été publiés dès 1945 par Paul Éluard. Alors, quelle fonction les poèmes avaient revêtu pour elle? Est-ce que c'était vraiment une espèce de bouée de sauvetage? Est-ce que ça lui permettait de finalement d'échapper à son quotidien, et notamment pendant la détention? Et puis vous, pourquoi vous avez décidé de les intégrer dans le récit?
En fait, ça fait partie des choses qu'on ne sait pas, mais qui sont importantes. C'est que la poésie, à l'époque, était... pour les jeunes, à peu près l'équivalent, on va dire, du rap aujourd'hui. Donc, il y avait vraiment cet engouement-là pour la poésie qui paraissait naturel. Et c'était... tout le monde faisait de la poésie. Ses copains faisaient de la poésie. Ils étaient moins bons que Madeleine. Mais Madeleine, elle a commencé très jeune. Elle nous a dicté, il n'y a pas longtemps, un poème qu'elle a écrit quand elle avait 8 ans sur la Première Guerre mondiale. Les soldats de la Première Guerre mondiale qui sortaient de leur tombe parce qu'elle habitait dans la Somme à côté des tranchées pour venir lui parler, mais elle réussissait pas à comprendre ce qu'elle disait, ce qu'il lui disait. Et donc ça a été son quotidien très vite, la poésie. C'était important de deux manières, en fait. C'est que elle a écrit des poésies pendant la résistance, elle a écrit des poésies pendant qu'elle était dans les cachots à Fresnes, mais aussi elle se récitait des poésies pour faire passer le temps ou essayer de se donner du courage pendant sa détention. Et Aubrac a dit que Raymond Aubrac a dit qu'il faisait la même chose. Et il se trouve que je suis en train d'adapter une pièce de théâtre qui s'appelle Incendie de Wajdi Mouawad, qui est une pièce incroyable, oui. Et qui est tirée de l'histoire d'une dame qui s'appelle Souha Béchara et qui se passe pendant la guerre civile au Liban 75-90. Et Souha Béchara, qui a existé pour de vrai, qui est toujours vivante, elle a passé 10 ans dans les geôles de Khiam, de la prison. Et en fait, elle se récitait des poésies pour passer le temps et pour se donner du courage. Et donc, je pense qu'il y a dans tout ça, dans cet esprit-là de la résistance, qui est assez littéraire, en fait, assez souvent, pas toujours, mais souvent, il y a la poésie revient tout le temps en leitmotiv. C'est intéressant, peu importe les époques. Et donc, pour Madeleine, ouais, c'était hyper important. Et puis, ça a conditionné sa vie suivante, parce que quand elle a rencontré Paul Éluard le 11 novembre 1944, donc après la libération de Paris, mais la guerre n'était pas finie, il a bien vu qu'elle était proche du suicide, de son choc post-traumatique, et il lui a dit « qu'est-ce que tu sais faire ?» Elle a dit « oh, bah, j'ai ramené, je fais un peu de poésie », et Éluard a pensé, il lui a dit plus tard qu'il avait pensé que, bon... il y a tout le monde lui montrait des poésies parce que c'était Paul Éluard, mais souvent il trouvait pas ça super. Et là, il a beaucoup aimé les poésies de Madeleine. Il a publié son livre et puis après il lui a dit mais tu sais personne ne vit de la poésie. Moi-même de temps en temps je suis obligé de vendre des tableaux de certains de mes copains qui m'ont offert dans les années 20-30. Mais Madeleine, elle avait pas des copains aussi connus que Paul Éluard. Donc à l'époque, même si elle est devenue copine avec Picasso après. Mais donc il lui a dit va travailler comme journaliste, et c'est comme ça qu'elle est devenue reporter de guerre, d'abord chez Ce Soir qui était le journal d'Aragon, ensuite dans La Vie ouvrière et puis après à l'Humanité.
On va parler de tableaux, justement, de peinture avec Thierry Lemaire dans la deuxième partie de l'émission. J'ai une dernière question pour vous, Jean-David.
Oui.
Donc, après la guerre, Madeleine va devenir journaliste. Elle va être l'une des premières correspondantes de guerre. Elle va couvrir l'Indochine, l'Algérie. Elle va aussi avoir des positions militantes anticolonialistes. Et donc, vous nous avez dit que vous avez prévu de raconter ça.
Bien sûr.
Combien de tomes sont prévus dans la série ?
Pour l'instant, avec Dominique, me dit 9 albums. Donc, je lui dis 9, ok, on y va.
Très bien. Eh bien. Merci beaucoup, Jean-David Morvan, pour avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes le scénariste de Madeleine Résistante. Le dessin, c'est Dominique Bertaille. Je ne l'ai pas signalé au départ, c'est aux éditions Dupuis, dans la collection Air Libre, hein, la magnifique collection Air Libre. Merci beaucoup. Et puis, alors, on va faire une petite pause musicale. Et puis, vous allez voir, c'est évidemment un clin d'œil à l'histoire de Madeleine. On y va.
Écoutez Aligre FM 93.1.
De retour sur Aligre FM 93.1 pour cette émission spéciale consacrée à une rétrospective de l'année 2024 en bande dessinée historique. Nous avons eu Jean-David Morvan donc là au téléphone pour parler de sa série Madeleine Résistante. Madeleine Résistante, le tome 3, Les nouilles à la tomate qui est sorti l'an dernier, qui fait partie de la sélection du prix d'histoire de Case d'Histoire. Et donc je vous retrouve Thierry Lemaire pour en parler. le prix Case d'Histoire donc, existe depuis 2015, il est décerné chaque année.
C'est ça, dès la création du site, on s'est dit, comme il n'y a pas de site, il n'y a pas de médias sur la bande dessinée historique, il y a un prix, alors là, il faut quand même que je ne dise pas n'importe quoi, il y a un prix, c'est le prix Cheverny, qui est plus ancien que le nôtre, qui est décerné pendant les rendez-vous de l'histoire de Blois. Mais effectivement, dans les médias spécialisés dans la bande dessinée, il n'y avait pas de prix de la bande dessinée historique. Donc on s'est dit, allez, commençons directement, première année, premier prix de la bande dessinée historique. Donc avec tous ceux qui ont écrit, celles et ceux qui ont écrit sur le site Case d'Histoire, on fait 10 finalistes tous les ans. On prend ce qu'on considère être les 10 meilleures bandes dessinées, puis après on vote pour savoir lesquelles on a préférées. Et on essaye de mettre en avant des bandes dessinées historiques qui sont assez ambitieuses sur le propos, sur le sujet traité, sur la façon de le traiter, et puis le dessin aussi, ça fait partie, si le scénario et le dessin sont extraordinaires, ça donne un chef-d'œuvre, il n'y a pas de souci. Donc on essaye de mettre en avant la qualité qui est, faut que je souligne ça aussi, qui est d'année en année, qui est meilleur d'année en année, je trouve, pour différentes raisons, mais une des raisons principales, à mon sens, c'est qu'il y a de plus en plus de scénaristes qui ont une formation d'historien, tout simplement, et donc qui savent comment tourner un sujet, qui aussi recoupe les sources, n'écrivent pas n'importe quoi. Et peut-être aussi, à force de lecture dans la littérature historique, des niches, des sujets un peu originaux, parce que ils ont lu les livres qui adéquates. Donc ça donne des scénarios qui sont de plus en plus passionnants, mais aussi de plus en plus intéressants au niveau presque de la recherche historique.
Oui, parce que souvent dans ces albums, maintenant, on a des cahiers en supplément, qui, à la fin des albums, qui donnent à voir des documents historiques, parfois inédits, parce que parfois viennent de la famille du dessinateur ou de l'auteur. Et donc, ce qu'on voit dans cette sélection de 10 livres, de 10 finalistes, c'est que la Seconde Guerre mondiale est le cadre de la moitié d'entre eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les essais historiques, et c'est quelque chose aussi qui est une constante dans la bande dessinée historique.
Ah oui. La période contemporaine, et le XXe siècle, mais alors dans le XXe siècle, c'est la Seconde Guerre mondiale qui surpasse toutes les autres, tous les autres moments de l'histoire sans aucune discussion possible. Il faut bien avouer que les nazis ont une bonne place et sont... C'est-à-dire que le degré d'horreur de la Seconde Guerre mondiale fait que on a des sujets... tout de suite qui parle aux gens, parce que c'est toujours en mémoire, 80 ans après, c'est encore la période qui est la Shoah, la bombe atomique. Là, on est arrivé à des degrés de tuerie qui ont dépassé ceux de la Première Guerre mondiale. Donc effectivement, la Seconde Guerre mondiale, on n'y coupe pas tous les ans. Et puis ça a concerné la France aussi, donc ça parle au lecteur.
Et le Madeleine résistant de tome 3 donc, fait partie des 3 finalistes. On va voir les 2 autres après. Si ça avait été un one-shot, comme le suggérait Jean-David, vous lui auriez peut-être décerné le prix.
Peut-être, mais alors notre politique, c'est de ne pas écarter les suites des séries. Parce que bien souvent, dans les prix, on dit, on regarde le tome 1, et puis quand ça arrive au tome 3, 4, on dit, le tome 1, on l'a déjà nommé, on l'a... Nous, non. Si la bande dessinée est bonne, on la prend. Alors, il y a d'autres cas comme ça. Par exemple, il y a la série Révolution, qui est absolument magistrale. Et c'est pareil. Le tome 2 était aussi fort que le tome 1, sinon plus. Et il a été dans la sélection. Donc, je ne sais pas si ça lui aurait donné. Peut-être. Parce qu'effectivement, un one-shot, c'est peut-être un peu plus... ça marque un peu plus. Mais c'est ce qu'il faut souligner pour cette série-là, c'est la qualité qui ne baisse pas. Parce que souvent, le premier est extraordinaire, le deuxième, déjà, ça s'essouffle un peu, et puis au bout d'un moment, on sent que ça ne s'essouffle pas. Donc, donc on ne peut pas passer à côté, c'est pas possible.
Non, c'est vrai. Alors, il y a un autre album auquel on ne peut pas passer à côté, mais moi, j'étais passé à côté, et je dois vous remercier, parce que c'est en préparant l'émission que j'ai acheté et lu ce livre. C'est le livre de Luz, Deux filles nues chez Albin Michel. C'est lui d'ailleurs qui a remporté le prix Case d'Histoire, qui est aussi sélectionné dans la sélection du Festival d'Angoulême qui va avoir lieu la semaine prochaine. Et là, c'est vraiment un grand album dont on sort vraiment pas indemne.
Oui, bah c'est étonnant parce que Luz, on l'attendait peut-être pas là. À ses débuts, il a fait beaucoup de choses sur la musique, par exemple. Malheureusement pour lui, heureusement peut-être pour les lecteurs, parce que ça a donné aussi un très bel album. C'était Catharsis sur l'après attentat Charlie Hebdo. Et voilà, donc il a adapté. Le livre de Virginie Despentes.
Vernon Subutex.
Merci. Et puis après, il y a eu Testostéror.
Testostéror,
voilà, je vais y arriver, merci. Et donc là, paf, une bande dessinée historique. Alors là, il prend déjà à contre-pied.
On va dire de quoi ça parle, justement ?
Alors, ça parle d'un tableau. Ça parle d'un tableau d'un peintre expressionniste qui n'est pas le plus connu des peintres expressionnistes en France, en tout cas. C'est
Otto Müller.
Otto Müller. Otto Müller, qui était un peintre expressionniste allemand. Et donc, c'est un petit peu le point de vue de ce livre, c'est le tableau, comme si le tableau regardait ce qui se passait en face de lui. Et on voit toute l'évolution à partir de la création du tableau en 1919 jusqu'à aujourd'hui. L'évolution, finalement, ça se passe en Allemagne, donc 1919, les années 20, après les années 30. Donc on voit toute l'évolution politique de l'Allemagne à travers ce qu'on pourrait appeler les yeux du tableau. Et le fil rouge, finalement, de cette histoire-là, c'est l'art et comment l'art et les enjeux politiques de l'art, parce que ce tableau a fait partie des expositions sur l'art dégénéré des nazis, organisées par les nazis. Et donc, voilà, on voit quels étaient les enjeux de l'art, ce tableau qui, visiblement, faisait peur aux idéologues, enfin, ce tableau et les autres, des expressionnistes, faisaient peur aux idéologues nazis. Donc, il y a deux choses, là, le fil rouge de la période qui est de la montée du nazisme et l'arrivée au pouvoir d'Hitler, etc. Et puis, très précisément, ce qui s'est passé pour les œuvres d'art à cette époque-là.
Oui, parce que ce tableau en lui-même n'a rien de choquant. En fait, d'ailleurs, l'album commence comme ça, avec Otto Müller qui peint sa muse en fait en forêt. Donc, c'est deux filles nues, comme le titre l'indique. Mais Otto Müller a des origines ciganes par son père. Et donc, évidemment, tout son art est considéré comme un art impie, dégénéré par les nazis, qui vont d'ailleurs organiser des expositions d'art dégénéré avec Chagall, enfin d'autres peintres connus, en parallèle d'expositions d'art officiel de bons ariens peintres. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ces artistes dégénérés en fait, vont rameuter trois fois plus de personnes, de spectateurs, que l'art normal. Et on va voir, en fait, effectivement, l'évolution de ce tableau dans le régime nazi, dans la période nazie. Ce qui est très marquant, c'est qu'on voit souvent en fait, les gens qui observent le tableau. On ne voit jamais le tableau, il est dessiné vraiment sur la dernière planche par Luz, mais en fait, on se met à la place du tableau qui va être ballotté de galerie en galerie. Il est à un moment la propriété d'un marchand d'art, enfin d'un collectionneur d'art juif. Donc évidemment, cette œuvre va être spoliée, récupérée par les nazis, puis elle va être mise aux enchères, etc. Et donc en fait, on a cette période qui est déroulée du point de vue du tableau. Et ça, c'est assez original.
Oui, tout à fait, parce que c'est le point de vue. Donc effectivement, le point de vue, on ne le voit pas, enfin, on ne voit pas qui est en train de regarder, et on se met à la place du tableau, et finalement, le tableau qui, à aucun moment, le propos de Luz n'est pas de faire parler le tableau, ou de lui donner une âme, c'est simplement, on se met à sa place, et finalement, on en finit par s'identifier à lui, alors que, en fait, Luz à aucun moment, ni ne le fait parler, mais c'est avec les gens qu'il regarde et qui parlent et ceux qu'ils disent, on se sent concerné par tout ça et on se met à la place du tableau, quoi. Donc effectivement, c'est remarquable de réussir à faire ressentir ça au lecteur.
Et l'album va vraiment jusqu'à la période contemporaine, puisqu'on apprend que le tableau va être redonné à une des héritières de ce collectionneur d'art juif, qui va le revendre au même musée de Cologne qui le possédait, pour en fait une espèce de restitution officielle finalement au monde de l'art, quoi, et de la culture. Est-ce que lui, c'était votre favori à titre personnel dans la sélection ?
Ah ouais, alors il n'y a pas eu discussion possible aussi. Il était déjà en tête quand il fallait voter pour les finalistes. Et voilà, il a réuni, pas tous les suffrages, mais une grande majorité des suffrages. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les deux autres. Hein. Madeleine Résistante, j'ai vraiment une grande tendresse pour cette série-là. Mais c'est vrai que là, ça m'a happé. Je m'attendais à rien. C'est bien quand il n'y a pas d'a priori, parce que en fait, on peut se faire surprendre dans le bon sens. Et voilà, quand j'ai refermé, j'ai dit, bon, d'accord, celui-là, il est bien parti, il est bien parti pour le prix.
Et vous pensez que là, à la remise de la sélection du prix d'Angoulême, il a des chances d'être vainqueur ?
Alors, il a déjà eu un autre prix. Il a eu le prix ACBD de l'Association des critiques de bande dessinée.
Dont vous faites partie.
Dont je fais partie. Et oui, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait peut-être pas le fauve, je ne sais pas, peut-être le fauve d'or ou au moins un prix à Angoulême. Ouais.
Alors, dans un tout autre registre, le troisième finaliste, c'est un album qui s'intitule « Le dernier debout », Jack Johnson, fils d'esclave et champion du monde. C'est paru aux éditions Futuropolis. C'est dessiné par Youssef Daoudi et écrit par Adrian Mateschka. Ça, on change vraiment d'univers. Ça n'est plus la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt le début du XXe siècle aux États-Unis, dans une période de ségrégation raciale. De quoi ça parle, Thierry Lemaire ?
Alors, ça parle d'un boxeur, d'un Jack Johnson, qui est un boxeur noir et qui est un champion. On se rend pas bien compte à l'époque, enfin aujourd'hui je veux dire, mais qui est aussi important que Mohamed Ali. C'est vraiment le grand champion du début du XXe siècle aux États-Unis. Mais il est noir, et dommage pour lui, parce qu'il n'a pas le droit de concourir au titre de champion du monde avec les Blancs. Donc voilà, il bat tout le monde, et... Il va arriver quand même, il va parvenir à combattre le meilleur boxeur blanc pour un titre de champion du monde. Et on voit le combat dans l'album, c'est un peu le point d'orgue, le point d'orgue de l'album, avec 100 000 personnes qui regardent le combat. Et il se fait insulter, c'est un public blanc et qui ne comprend pas déjà comment il peut être sur le ring à combattre un blanc et qui... Voilà, il se fait insulter et c'est lui qui gagne. Et donc, c'est un peu grandeur et décadence de ce personnage-là qui va passer par toutes les étapes du succès pour arriver à la déchéance finale, avec tout au long de sa vie, toutes les barrières qui ont pu être mises pour que, malheur pour lui, il est en couple avec une blanche. Mmh. Et donc, ça c'est intolérable aussi aux États-Unis à cette époque-là. Et donc, il se fait arrêter, en changeant d'état. Enfin, il y a vraiment un imbroglio judiciaire par rapport à ça. Et c'est vraiment grandeur et décadence. Et le fil rouge, c'est sa vie, c'est la biographie de Jack Johnson, mais c'est évidemment la ségrégation aux États-Unis et le toutes les choses complètement absurdes qu'il y avait à l'époque.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Le fil rouge aussi de ce livre, c'est le combat. Donc il y a une quinzaine de rounds qui vont ponctuer l'album. Et en fait, ce combat, finalement, quel que soit le résultat, c'est forcément une défaite pour ce boxeur, parce que on peut s'attendre à ce qu'il perde. À ce moment-là, les spectateurs et la presse blanche n'est pas étonnée en disant, voyez, la suprématie raciale des blancs, elle s'exprime même avec les poings. Mais s'il gagne, finalement, on n'accepte pas non plus qu'il gagne. Et on va d'ailleurs après l'empêcher, alors à la fois de continuer sa carrière, de combattre d'autres blancs, en tout cas dans un premier temps. Et puis, vous l'avez dit, il y a une législation qui venait d'être votée, qui s'appelle la loi Mann, qui était promulguée pour lutter contre le trafic des êtres humains, et notamment les femmes blanches. Et or, comme lui est marié avec une blanche, eh bien, on va l'accuser de l'avoir kidnappé, etc. Et donc, il va être condamné à de la prison, et pour éviter la prison, il va devoir s'exiler, faire un tour d'Europe, et en fait, il va terminer vraiment sans le sou, jusqu'à une fin tragique qu'on ne va pas raconter là. Ce qu'on peut dire aussi sur ce livre, c'est qu'il a été écrit d'abord en anglais, puisque Adrian Mateschka, c'est un Américain, et donc Youssef Daoudi, qui est français, a fait les dessins pour l'édition américaine, et puis ensuite ça a été traduit en français, ce qui est pas banal quand même dans dans l'histoire de l'édition quand même.
Oui, c'est vrai.
Un français qui écrit en anglais.
C'est vrai. Mais c'est comme pour le cinéma, c'est plutôt dans l'autre sens les Américains qui pillent un petit peu les bonnes idées. Là, c'est dans l'autre sens. Mais faut vraiment souligner le dessin qui est un dessin en noir et blanc comme ça, avec des noirs très profonds qui donne aussi toute sa saveur à l'album.
Oui, un dessin qui est très particulier à Youssef Daoudi, qui a fait aussi d'autres albums de ce type, hein, Monk, aussi un livre sur Orson Welles, qui est vraiment...
Qui était très bien,
ouais, tout à fait.
Récent. Là.
Donc je n'ai plus le nom en tête, mais
C'est Orson...
C'est peut-être Orson, tout simplement, Orson, il me semble. On en revient à la Deuxième Guerre mondiale, puisque vous avez sélectionné alors un livre que je n'ai pas lu, donc je ne vais pas pouvoir rebondir sur ce que vous dites, Thierry Lemaire. C'est Retour à Lemberg, qui est adapté de Philip Sands.
C'est ça. Alors là, c'est retour. Alors, et effectivement, Seconde Guerre mondiale et la Shoah et...
Oui, voilà, c'est-à-dire que la Seconde Guerre mondiale est un prétexte pour raconter le long XXe siècle.
C'est ça.
On ne l'a pas dit, c'est chez Delcourt, scénarisé par Jean-Christophe Camus et dessiné par Christophe Picot.
Et là, c'est effectivement l'adaptation d'un essai finalement sur la famille de l'auteur. Et ça s'entremêle le point de rencontre de plusieurs fils narratifs. C'est une ville, donc Lemberg. Aujourd'hui, elle s'appelle Lviv. Elle a changé plusieurs fois de nom. Lemberg, c'est le nom allemand. Et dans cette ville, c'est là où a vécu la famille, une partie de la famille donc, de l'auteur. Et puis, deux juristes qui ont fait leurs études là-bas. Et ces deux juristes juifs sont à l'origine de deux concepts qui sont le crime contre l'humanité et l'autre concept qui est...
Le génocide.
Le génocide, voilà. Merci. Et qui en fait sont des concepts un peu concurrents. Et donc pendant le procès de Nuremberg, les deux juristes ont essayé de faire gagner chacun son concept qui ne revient pas au même. Crime contre l'humanité et génocide, c'est pas la même chose. Et en lisant l'album, vous verrez clairement la différence. Et puis c'est aussi dans cette ville que a été un peu déclarée la solution finale. Donc il y a ces trois fils narratifs qui s'entremêlent et qui donnent un album épais, dense, très érudit, beaucoup d'informations, pas facile à lire. Le dessin, il est très clair, c'est une petite ligne claire comme ça, c'est noir et blanc mais avec beaucoup de blanc. Donc c'est très facile à lire, mais effectivement le contenu... Bon voilà, il faut s'attendre à quelque chose de dense, donc il ne faut pas rentrer dans l'album en se disant « Tiens, je vais passer un petit moment, c'est épais, vous n'allez pas le lire en 20 minutes, mais vous allez en ressortir avec plein d'informations, et ces trois fils narratifs, c'est un peu éblouissant comme scénario, quoi, la façon de faire le scénario. »
Justement, beaucoup de ces bandes dessinées historiques, et notamment sur la Seconde Guerre mondiale, intègrent l'histoire familiale des auteurs. J'avais eu l'occasion de recevoir Thomas Legrand pour Les Évasions perdues, qui racontait l'histoire de son grand-père capturé par les Allemands et envoyé en camp puisqu'il était sous-officier. C'est le cas d'autres livres qui sont dans votre sélection, comme Lebensborn d'Isabelle Maroger chez Bayard, qui raconte l'histoire de sa grand-mère d'origine norvégienne à l'époque où la Norvège avait été occupée par les nazis. C'est également le cas d'un autre livre, Le lierre et l'araignée chez Dupuis par Grégor Carlet, qui raconte l'histoire de son grand-père résistant alsacien. Et donc, ces albums, c'est à la fois finalement une documentation historique, mais aussi beaucoup des histoires familiales. Est-ce que vous, c'est un genre que vous aimez plus particulièrement? Parce que vous m'avez dit, en préparation de l'émission, que vous lisiez 400 à 500 albums par an, donc en gros une dizaine par semaine. Qu'est-ce que vous préférez comme période historique et comme style d'album historique?
Alors par ma formation universitaire, je suis médiéviste. Donc ça c'est vraiment effectivement ma période de prédilection. Le Moyen-Âge en bande dessinée...
C'est beaucoup de la fantaisie, voilà.
C'est... Alors il y a des super choses, il y a un prix Case d'Histoire qui est Jeux-François Villon, qui... ça c'est à la limite du Moyen-Âge, mais il y a vraiment des très belles choses. Mais il y en a peu. Il y en a beaucoup moins que la Seconde Guerre mondiale. Mais effectivement, pour rebondir sur l'idée de témoignage familial, c'est vrai, et on peut citer aussi Tardy, pour Stalag 2B, son père qui est dans les camps allemands pendant la guerre. Et beaucoup... Alors, il y en a un peu moins aujourd'hui, mais il y a quelques années, il y avait une vague de bandes dessinées sur la guerre d'Espagne. Et la plupart des bandes dessinées sur la guerre d'Espagne, c'était « Mon grand-père a fait la guerre d'Espagne » ou « a participé d'une façon ou d'une autre et je vais raconter son histoire ». C'était assez flagrant. Mais alors, après, ça dépend comment c'est traité. C'est comme les chasseurs, hein, il y a des bonnes biographies et des mauvaises biographies. Mais quand c'est des bonnes biographies... Il y a le matériau qui est voilà, c'est mon grand-père qui raconte son histoire. C'est magique.
Dans les quelques minutes qui nous restent, on peut aborder très brièvement les autres livres sélectionnés, notamment un d'ailleurs que je crois que vous aimez beaucoup, qui est Bobigny 1972, pour revenir à un contexte français et qui n'est pas la Seconde Guerre mondiale. C'est paru chez Glénat, dessiné par Carole Morel et scénarisé par Marie Bardiot-Valente. Donc ça revient sur le procès de Bobigny 1972, qui a été le prélude à la légalisation de l'avortement. Donc ça raconte une histoire que l'on connaît, qui est cette fille qui est violée par un homme et qui va être dénoncée parce qu'elle va avorter, donc dénoncée par ce même homme. Et puis cette affaire va être médiatisée avec l'avocate Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir, donc ils vont en faire en fait une caisse de résonance pour montrer que en fait celles qui avortent sont finalement les plus démunies. Hein, deux ans après ou trois ans après, eh bien, ce sera la loi Veil qui légalise l'avortement. Est-ce que vous avez aimé cet album qui n'est pas un témoignage familial, qui raconte une histoire connue, mais qui est très poignante?
Oui, c'est presque du domaine du documentaire. Mmh. Alors, il y a eu des choses sur la loi Veil en bande dessinée, il y a eu des choses sur Gisèle Halimi, la vie de Gisèle Halimi en bande dessinée, mais c'est vrai que là, c'est plus anglais. Sur vraiment ce procès-là. Donc déjà, c'est intéressant, parce que c'est pas comment on est arrivé à la loi Veil, c'est vraiment ça induit la loi plus tard. Et je trouve qu'il n'y a pas trop de, pathos, hein, parce qu'on pourrait tomber dans quelque chose d'un peu larmoyant ou d'un peu dramatisé, comme ça. Non, là, c'est les faits, et ça suffit. Ça suffit, et je trouve que les personnages de Gisèle Halimi, de Simone de Beauvoir, sont bien employés, parce qu'on pourrait, voilà, c'est des noms, alors on va les mettre et puis on va les montrer comme ça. Non, c'est fait.
C'est plus fin que ça. Oui.
C'est fait de manière intelligente, et donc, quand on referme l'album, on a l'impression d'avoir appris des choses et d'avoir bien ressenti, en fait, les enjeux à l'époque. C'est réussi.
Quelques mots pour terminer, Thierry Lemaire, sur les sorties de 2025 les plus attendues. Alors, on ne sait pas forcément très longtemps à l'avance. Hein, beaucoup de sorties sont signalées lors du Festival d'Angoulême qui a lieu donc, le dernier week-end de janvier chaque année. Mais dans les premières sorties là, de ces semaines, est-ce que vous avez repéré des titres qui vous ont plus intéressé que d'autres ou que vous avez peut-être déjà lu, que vous avez commencé à chroniquer dans Case d'Histoire?
Oui, alors, effectivement, les éditeurs profitent du Festival d'Angoulême pour présenter aux journalistes leur programme pour l'année. Donc, on ne les a pas encore pour toute l'année 2025. Mais il y a déjà des choses qui sont sorties ou qui vont sortir bientôt, moi qui m'ont bien plu. Alors, j'en citerai deux. Mmh. Hein, je citerai d'abord le tome 2 de la trilogie berlinoise. C'est l'adaptation du roman de Philippe Kerr par Pierre Boisserie et François Varzala. Le tome 1 était... Alors donc, ça se passe pendant l'entre-deux-guerres et au moment de l'accession au pouvoir d'Hitler en Allemagne. Et c'est un détective privé. Et donc... qui est, lui, anti-nazi, et donc voilà, les difficultés qu'il a pour conduire ses enquêtes, tout en essayant de ne pas donner un coup de poing dans le nez de tous les SA qui passent à côté de lui. Les dialogues sont super, le scénario est vraiment bien, l'adaptation est vraiment très bien. Le tome 2, je ne l'ai pas encore lu parce qu'il n'est pas encore arrivé, mais moi, le tome 2, il faut y aller les yeux fermés. Et puis l'autre, alors là je l'ai lu, qui est sorti hier, c'est une bande dessinée de deux Espagnols, Paco Roca et Rodrigo Terraza, qui s'appelle L'abîme de l'oubli, chez Delcourt. Et la trilogie berlinoise, c'est chez Les Arènes BD, chez Delcourt. Et là, c'est l'histoire de la... en Espagne donc, du combat des veuves ou des sœurs de républicains tués après la guerre d'Espagne, donc la répression après la guerre d'Espagne par le pouvoir franquiste. Et donc, depuis quelques années, en fait, c'est compliqué parce que y a suivant le parti qui est au pouvoir, il y a des lois plus ou moins favorables pour déterrer les fosses communes et essayer de retrouver les gens qui sont morts, parce que bien souvent la famille ne sait même pas quand ils ont été tués, s'ils ont été fusillés. Et donc c'est toute cette histoire-là de déterrer les corps, des archéologues qui viennent déterrer les corps dans les fosses communes espagnoles pour, avec l'ADN, retrouver les personnes qui ont été fusillées. Et c'est vraiment passionnant, très émouvant, je conseille.
Et puis, dans les autres sorties que j'ai pu repérer dans ma librairie habituelle de bande dessinée, eh bien, il y a la version longue, remasterisée, du Lotus Bleu, d'ailleurs, d'Hergé, voilà.
Ouais.
C'est historique aussi, et puis voilà, ça
va. Tout à fait, c'est une des premières bandes dessinées qui commence à parler d'histoire dans l'histoire de la bande dessinée.
Bien sûr, et c'est d'ailleurs, sur le plan historique, c'est l'une des meilleures, des plus documentées, des plus fouillées d'Hergé. Hein.
Tout à fait.
Merci beaucoup Thierry Lemaire,
ben, merci à vous
d'avoir répondu à cette invitation. Donc, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du site Case d'Histoire, qui est spécialisé dans la bande dessinée historique. Dans la première partie de l'émission, nous avons eu Jean-David Morvan, le scénariste de la série Madeleine Résistante, parue chez Dupuis. Et quant à moi, je voudrais remercier toute l'équipe technique présente aujourd'hui, Armand, Damien, Philippe, merci beaucoup. Et on va vous laisser avec le reste de la programmation d'Aligre. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup Thierry.
Merci.
À bientôt.
Écoutez Aligre FM 93.1.